Le prochain orateur est le professeur Barthe Leroy. Alors, inutile de vous le présenter, mais je vais quand même vous le présenter. Donc, le professeur Barthe Leroy est bien entendu le chef du service d'ophtalmologie de l'hôpital universitaire de Gand. C'est un spécialiste à la renommée mondiale. L'association Retina Pigmentosa a été créée il y a plus de 10 ans par Madame Viviane Allais-Torder. Et dès le début de la création de l'association, nous sommes tournés vers Barthe, nous l'avons sollicité. Il a répondu présent immédiatement. Depuis plus de 10 ans, il soutient l'association. Il est toujours présent et toujours là pour nous encourager. Grâce à sa réputation mondiale et à ses nombreuses relations internationales, il a permis que l'association Retina Pigmentosa puisse bénéficier de l'expérience d'orateurs étrangers internationaux de très haut vol, le professeur Hamel, le professeur Odo et tous les orateurs qui se sont succédés année après année pour venir nous présenter des conférences d'un niveau scientifique extraordinaire. Il est bien sûr, donc, avec son service, est le centre de référence nationale des maladies oculaires génétiques. Au nom de l'association, on te remercie pour tous les efforts que tu as faits, tous les encouragements que tu nous as apportés pendant ces 10 ans et tous ceux que tu nous apporteras encore à l'avenir. Je te laisse la parole. Tu vas nous parler maintenant des thérapies géniques et génétiques.
Je peux juste dire, ça me touche. Merci. Nous avons eu déjà des exposés d'Andrea et d'Isabelle sur la thérapie génique, donc je peux aller assez vite dans quelques diapos. Mais juste en fait pour nous dire que nous sommes comme êtres humains définis par 2 × 20 000 gènes. Et donc, il y a beaucoup de gènes qui nous déterminent. Et actuellement, il y a à peu près 300 gènes connus pour les iridodystrophies de la rétine. Ça veut dire les maladies qui touchent la qualité de la rétine, y inclut les maladies des cellules ganglionnaires, qui sont les canaux collecteurs qui vont faire le nerf optique. Il y a une explosion de connaissances de l'année 90 à peu près, jusqu'à maintenant. Et donc le nombre augmente constamment, c'est tellement important que actuellement, moi je ne peux plus suivre. Donc également, moi j'ai besoin de bases de données, et je pense mes confrères, consoeurs également. La thérapie génique, j'ai eu en fait la possibilité d'assister un très petit peu, comme très petit monsieur dans une équipe hyper grande de Madame Jean Bennett et Monsieur Al McGuire à Philadelphie, et j'ai appris beaucoup. J'avais des patients au début avec qui je suis allé aux États-Unis. Il y avait une relation qui s'est développée, et puis finalement, Yannick et les autres patients, moins connus que Yannick, ont été inclus dans les phases 1, phase 2, ou phase 1, phase 1, add-on et phase 3. Afin de pouvoir faire la thérapie génique, on a plusieurs types de virus. Des virus qui sont des petits camions FedEx qui apportent aux cellules cibles une nouvelle copie d'un gène dans la plupart des cas. Et donc, le virus le plus utilisé, c'est le Adeno-Associated Virus, qui est un virus que l'on peut facilement manipuler. Le problème, c'est assez petit. Ce n'est pas un camion FedEx, c'est une petite camionnette FedEx. Et donc, quand on a de grands gènes, ça ne va pas. Il y a maintenant quelques approches qui se développent afin de pouvoir inclure également de grands gènes dans 2 ou 3 petites camionnettes en découpant les gènes en quelques parties. Et comme on a de temps en temps, quand on visite IKEA, espérons qu'on a toutes les vis, finalement on peut reconstruire à la maison ce qu'on a acheté. Andrea a dit déjà, l'œil est un petit jardin privé, idéal, on peut l'atteindre facilement. S'il y a une tumeur qui se développe, on peut utiliser le laser, voir ce qu'on fait. le système immunologique n'est pas hyper réactif comme dans d'autres parties de notre corps. Et donc, il y a deux types d'injections que l'on fait. D'un côté, en dessous de la rétine, ce qui veut dire entre l'épithélium pigmentaire et les cellules photoréceptrices, les cônes bâtonnets. L'autre chose que l'on peut faire, c'est injecter en intravitréen, et tout dépend de la pathologie. Ce sont deux approches. Vous avez déjà eu beaucoup d'informations sur l'RPE 65, et donc je peux être bref. Monsieur Leber, un Allemand qui a décrit beaucoup de pathologies, l'a décrit en 1869, donc déjà longtemps. Et en fait, c'était des patients qui n'avaient presque pas de vision à cause du fait que la rétine ne traduit pas la lumière en électricité. Il y a beaucoup de gènes actuellement connus. On peut compter à peu près 24 différents gènes actuellement. Et Christian Hamel, le fondateur en fait de la SGOF et un grand ami à l'association également, a donc découvert le gène et a beaucoup travaillé là-dessus. Je suis certain qu'il serait ravi de voir actuellement, et probablement il le voit, hein, qu'actuellement on a ce traitement sur le marché. Comme je viens de dire, Isabelle, l'RPE 65, c'est une protéine qui est au niveau de l'épithélium pigmentaire responsable pour refaire une vitamine A en forme active d'une vitamine A usée, non pas seulement utilisée, mais usée. On ne peut plus réutiliser, sauf quand on recycle. Au début, c'est presque normal ce qu'on voit dans les yeux des patients. Comme vient dire Isabelle, l'image en autofluorescence avec la lumière bleue intense est presque noire. On ne voit pas beaucoup. Et c'est typique pour cette pathologie. Et plus tard, ici une dame âgée de 29 ans, c'est la même image que la rétinite pigmentaire. Et quand on regarde le développement de cette thérapie génique, on peut dire que on avait découvert le gène en 97 et finalement il y avait le OK pour l'introduction sur le marché américain en 2017. Ça c'est 20 ans entre la découverte de ce gène et l'introduction sur le marché d'un médicament. Et donc, il y a plusieurs questions à poser, bien évidemment. Ici, nous sommes en 2017. J'étais là, non pas seulement avec de belles femmes, mais avec d'autres personnes également, au Food and Drug Administration, qui est donc du côté des États-Unis. Le niveau où on décide, oui, vous avez suffisamment d'informations pour le mettre sur le marché, utiliser donc une firme pharmaceutique qui est la seule façon d'introduire sur le marché un nouveau médicament. Et donc, j'y étais pour 23 heures aux États-Unis. Et je suis arrivé le jour avant. Et puis quand j'étais dans l'avion, déjà une heure, deux heures après la session de l'FDA, il y avait un OK. Ils avaient accepté que l'introduction sur le marché pouvait se faire. Et donc on a maintenant la Luxturna, le Luxturna, je ne sais pas, c'est le voretigine par Vovec et la Luxturna probablement, non, la Luxturna. Le Luxturna, alors j'accepte. Et donc, ça ouvre quelque chose. Ça ouvre le chemin vers, finalement, d'autres thérapies. Et c'est dans ce sens qu'il faut essayer d'assumer une vision d'hélicoptère, une vue d'hélicoptère, de dire, bon, c'est pas mon gène comme patient, hein, mais c'est quelque chose qui fait bouger les autres choses. Et où est-ce qu'on est en Europe? Isabelle et Andrea ont déjà raconté cette histoire. En Belgique, il faut que l'on continue à discuter avec Madame de Bloch. Hein, donc, c'est difficile en Belgique. C'est très facile de faire de la recherche, donc on est bien connu comme étant un pays où on peut agir très vite au niveau d'essais thérapeutiques, mais pour l'introduction et le remboursement, les procédures sont complexes. Et bien évidemment, Madame de Blocq a un budget limité, hein, donc il faut dire ce qui est la vérité. Mais là, en fait, j'ose juste mentionner quelques questions. Et moi, je n'ai pas toujours la réponse sur les questions. Mais donc, est-ce qu'on a une idée, par exemple, pour le Luxturna, l'effet de Luxturna? Je connais mon patient qui est Yannick. Yannick a été traité il y a plus que 10 ans. Et il voit encore, mais je peux dire que sa rétine continue à dégénérer. Et donc finalement, moi je ne pense pas que ça va durer jusqu'à l'âge de 80 ans. Et donc je pense qu'il faut réinjecter, qu'il faut traiter une surface qui est plus grande, etc., etc., etc. Donc là, il y a beaucoup de questions à répondre encore. Qui est le patient idéal? Vous avez entendu Andrea et Isabelle là-dessus également. C'est difficile également pour nous de déterminer qui oui et qui non. Hein? Et une question bien évidemment qui se pose, comment faire afin de pouvoir prendre une grande vitesse, une plus grande vitesse, afin de pouvoir développer des traitements pour plus de personnes. Et dans ce sens, moi j'étais toujours un avocat en faveur de réinjection, d'injecter des surfaces plus larges. Et dans ce sens, il faut dire que je suis fort ravi de pouvoir citer du travail de mes collaborateurs à Philadelphie, qui ont prouvé que chez des primates non humains, hein, donc des singes, on a donc pu injecter dans les deux yeux, on a injecté à nouveau 2 mois après, il n'y avait pas vraiment de complications. Donc c'est quelque chose que l'on peut faire. Il y avait toujours la discussion, mais est-ce qu'il y aurait une réaction plus extrême de notre système immunologique ou pas? Et donc, il nous semble que non. Je vais vous raconter une autre histoire. J'avais dans le titre thérapie génique et thérapie génétique. Et donc, il y a une petite différence, ce n'est pas tellement important ce qu'on appelle quoi, mais l'autre gène duquel je veux parler, c'est le CEP290, qui, quand il y a une mutation présente dans les 2 copies de ce gène, également provoque une amaurose congénitale de Leber, c'est-à-dire la même chose que fait l'RPE65 dans la plupart des patients. Ce n'est pas toujours l'amaurose congénitale de Leber, mais la plupart des patients ont des conditions assez sévères. Et donc ça a été décrit en 2006 par le groupe de Anneke den Hollander des Pays-Bas et en étude chez nous à Gand pour toute la Belgique, on a pu prouver qu'à peu près 30%, c'est la majorité de tous les gènes ensemble, 30% des patients avaient 2 mutations dans le CEP290. Donc c'est le gène le plus important pour ce groupe de patients en Belgique et dans la partie du nord d'Europe, c'est la même chose. Dans le sud, c'est différent. Qu'est-ce qui fait le CEP290 ? C'est essentiel pour le bon transport entre là où, dans le bâtonnet ou le cône, sont produits les protéines et là où, partie en forme de bâton, partie en forme de cône, vont faire les protéines leur travail. Il y a une petite connexion qui s'appelle connecting cilium et cette petite connexion, c'est là où travaille le CEP290. Quand on a un mauvais gène de papa et un mauvais gène de maman, on ne fait pas de bonnes protéines CEP290 et le transport des protéines qui doivent traduire la lumière en électricité dans la partie en forme de bâton ou en cône, le transport ne se fait pas et on est aveugle. Cliniquement, au début, presque normal, Puis après un certain moment, on voit l'image d'une rétinite pigmentaire. Quand on regarde les patients avec des mutations dans le CEP290, ce sont les patients du groupe d'amaurose congénitale de Leber qui souffrent le plus d'une vue très très basse, beaucoup moins comme vue que les gens avec des mutations dans l'RPE65. Et ce qui est étrange, c'est qu'il y a une mutation qui est hyper fréquente dans ce gène. Donc beaucoup de patients, chez nous, à peu près 50% et peut-être même plus, ont une mutation, une faute spécifique, au moins dans une copie de ce gène, en combinaison avec une autre faute, et même, de temps en temps, dans les deux copies, cette faute fréquente se trouve, c'est un état homozygote, comme on l'appelle. Cette faute est la cible du traitement dont je vais parler. D'abord, et c'est juste le principe, je veux vous dire ce qui se développe actuellement. Je veux vous informer qu'il y a d'autres choses qui se développent. Mais avant que je puisse en parler, je vous dois juste une petite éducation au niveau de l'ADN, de l'ARN et des protéines. Les gènes, la langue des gènes, c'est l'ADN. Prenons par exemple le français français. Puis, ce français français doit se traduire ou transcrire en français canadien, qui est une langue très proche, presque identique, mais il y a des différences. Et puis, de l'ARN doit être produite une protéine, ce qui est chinois. C'est du chinois, c'est une autre langue, complètement, au niveau structure, complètement différente. Ok? Qu'est-ce qui doit se faire? D'abord, on a l'ADN, donc le français français, et puis on a le français canadien. Et étrange, chaque gène s'organise avec des parties codantes et des parties non codantes. Donc, quand on regarde la structure d'un gène, il y a toujours des parties codantes, on les appelle les exons, et les parties non codantes, les introns. Voyons ça comme une recette, on va cuisiner, on va suivre une recette. Il y a donc un bloc, un alinéa de texte, et puis un bloc blanc. Alinéa de texte, bloc blanc. Alinéa de texte, bloc blanc. Afin de pouvoir, d'abord, en fait, le français français, avec l'alinéa de texte, le bloc blanc, alinéa de texte, bloc blanc, va se traduire en français canadien, même structure, presque la même structure. Et puis, pour maturer, et pour pouvoir traduire ce français canadien en chinois, en protéines, il faut une maturation. Cette maturation, c'est une excision et ça s'appelle épissage en français, excision de tous les blocs blancs, et il faut mettre ensemble toutes les parties codantes. Tous les alinéas de texte doivent se mettre ensemble. Et puis, le système dans nos cellules peut traduire ça en chinois, en protéines. OK? Bon. Qu'est-ce qui fait la mutation fréquente dans le CEP290? Ça perturbe complètement cette production de protéines, donc la traduction de français canadien en chinois ne se fait pas. Pourquoi? La mutation étant présente dans un bloc blanc perturbe le système qui doit découper les blocs blancs, tel que le système pense « Eh, mais je dois ajouter ça également. Il y a un texte, une petite partie de texte également, je dois insérer. » Et finalement, on arrive avec un français canadien qui ne sait pas se traduire d'une bonne façon en chinois. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait, dans une étude, en collaboration avec Philadelphie et Iowa, à Gand, trois centres dans le monde, on a injecté une petite molécule de français canadien, une petite molécule d'ARN produite dans le labo, et c'est comme un velcro qui s'attache à la zone où la mutation se trouve, et ça corrige complètement le processus de traduction de français canadien en chinois. Et on injecte ça de façon nue, donc on n'utilise pas de transport, de véhicule de transport des virus. Non, c'est nu. Et il faut le répéter, cette injection. Et c'est cela qu'on a fait donc avec ce qui s'appelle Cepofarsen. Et je ne vais pas entrer en détail dans cette étude. On a testé plusieurs doses chez 11 patients au total. 11 patients, dont 2 patients à Gand, 4 patients à Iowa et 5 patients à Philadelphie. Et puis, en fait, on a pu déterminer la dose idéale où on avait les effets les plus importants avec une certaine dose, ce qui était la dose la plus basse des deux utilisés. Et on a vu, étrange, que finalement... C'est mon ordinateur qui... Oui, il faut utiliser un PC, oui. Ce n'est pas tellement important que je montre les diapos, je vais raconter. Donc il y a un problème avec le système du beamer, je pense. Mais donc ce qui est l'essentiel, je pense que la lampe ne fonctionne plus. Hein, donc, oui. Pas grave, je vais raconter mon histoire. Donc, ce qu'on a vu, c'est que la vue centrale, donc l'acuité visuelle, s'est améliorée. Ce qui est étrange quand même, parce qu'il y avait des patients qui étaient vraiment très malvoyants, mais on voyait que l'acuité visuelle s'est augmentée. Ce qui était quand même impressionnant et pas prévu. Quand même, comme les résultats étaient tels que... On a été impressionné, on a pu convaincre, par exemple, le FDA et IMA qu'on pourrait continuer. Et par exemple, Isabelle à Paris et plusieurs autres centres vont participer dans cet essai thérapeutique. Est-ce que c'est sauf et saine? On a des cataractes. On a de l'œdème maculaire et on a eu un petit peu d'amincissement de la rétine. La cataracte peut s'opérer. L'œdème maculaire a été traité de façon efficace. Je pense que ça ne fonctionne plus. Donc, il y a un technicien quelque part, mais c'est pas grave. Je suis presque à la fin de ce que je voulais dire quand même. Donc, en ayant une cataracte, on peut opérer les cataractes. Donc là, on a opéré quelques patients qui en avaient besoin. Et donc, on continue. C'est un travail pas seulement de moi, bien évidemment, mais c'est une collaboration internationale. Je voulais juste mentionner qu'il y a toute une série, et je ne peux pas vous montrer la liste, mais ce n'est pas tellement important, plus que 40 différentes essais thérapeutiques sont en cours actuellement et pour de différentes pathologies, pour la choroïdérémie, on va prochainement avec la technologie d'antisense oligonucléotide, ce que je viens de dire pour le CEP290, on va l'appliquer dans le syndrome de Cher dû à des mutations de H2A. On est en train, en fait, de l'étudier déjà avec un consortium de groupes internationaux. Il y a beaucoup plus de conditions à nommer. Ce n'est pas intéressant de les nommer tous, bien évidemment. Il y a également la neuropathie optique, qui se traite la neuropathie optique de Leber, autre chose décrite par Monsieur Leber. Et il faut penser que très probablement il y a à peu près 3 millions de patients qui ont des iridodystrophies de la rétine. Et donc il faut pour tout le monde déterminer le gène et essayer quand même pour une partie de ces patients de développer des approches thérapeutiques aptes. Je pense que la thérapie génique n'est pas superbe, ça fait quelque chose. Si vous avez perdu des cellules, on ne peut plus les cibler. Donc c'est très important de savoir qu'on ne peut pas normaliser, on ne fait pas de pilote de personnes malvoyantes. Mais il y a quand même de l'espoir. J'ai ici un diapo avec toute mon équipe, y inclut Madame Nerings, bien évidemment, mais je ne peux pas les montrer. Je vous remercie, mais je vais d'abord remercier Viviane Alletorders, qui est présidente de l'association Retina Pigmentosa. Je pense que son travail de chaque jour... Ja, ik denk dat de lamp zou kunnen kapot zijn. Plots was het gedaan. En tout cas, je vais remercier Viviane, qui est le moteur en fait de cette organisation. Et vous pensez, vous venez ici à cette journée. Et bien évidemment, c'est tout à fait logique, quelque chose se fait. Mais Viviane n'a pas les moyens. Il n'y a pas de moyens de le faire. Donc c'est juste son grand cœur qui fait qu'elle fasse quelque chose de positif avec l'énergie négative que tout le monde ici peut sentir. Il y a de l'espoir en la personne de Viviane, ça se voit clairement. Elle est très modeste, donc tu ne veux jamais parler, mais venez une fois et il faut l'applaudir. Merci.